voudrais parler sur comment être conduit par Dieu. Dans Luc, chapitre 2, le verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœur soient dévoilées. » Amen. Le nom de Siméon signifie exaucement. Exaucement, ça nous parle déjà de Dieu qui entend nos prières, qui intervient en notre faveur et qui agit. Nous savons qu'il était juif, il faisait donc partie du peuple d'Israël qui avait reçu la promesse de la venue d'un libérateur, le Messie. C'est pourquoi il attendait la consolation. Dans le texte, c'est dit, il attendait la consolation d'Israël. C'est une image pour parler de la venue du Messie. Et Dieu l'a conduit un jour précis, à un endroit précis, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que Jésus, enfant, allait être présenté à Dieu. Il ne le savait pas encore, mais lorsqu'il vient dans le temple, le Messie est là et il va avoir une révélation pour reconnaître que c'est Jésus qu'il tient dans ses bras, que c'est le Sauveur du monde. Il a été en fait conduit par Dieu, conduit par le Saint-Esprit pour se rendre au temple ce jour-là, à cette heure-là. Et il y a des conditions à respecter pour être conduit par Dieu. On n'est pas conduit par Dieu par hasard. On n'est pas conduit par Dieu quand on ne cherche pas sa face, quand on ne cherche pas sa volonté. On est conduit par Dieu quand on remplit certaines conditions que nous allons voir dans ce texte. Et c'est pourquoi j'aimerais voir avec vous comment Siméon s'est laissé conduire par Dieu pour être au bon endroit au bon moment. Le premier point, c'est d'abord un choix clair dans sa vie. Un choix clair, puisque le texte dit que Siméon était juste et pieux. Et il y a le psaume 25, 14 qui dit ceci, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » L'amitié de l'Éternel. C'est un texte extraordinaire qui nous montre que Dieu veut être notre ami, il veut être proche de nous, mais c'est pour ceux qui le craignent. Donc il y a une condition, il y a un saint respect à avoir, il y a un amour pour Dieu à développer. Certains prennent Dieu à la légère ou ils se moquent un petit peu de Dieu. Mais Siméon n'était pas de ce cas-là, il était juste, il était pieux, il craignait l'Éternel, il a fait un choix clair. Et je dirais qu'il a fait le bon choix. Si nous venons dans le détail, donc, quand on dit qu'il était juste, ben, si vous voulez être juste, comme Siméon, certains vous abandonneront à cause de votre piété, à cause de votre justice. Peut-être vous perdrez des amis, peut-être des collègues de travail, parce que vous voulez vous maintenir dans la droiture. Mais ça n'est pas grave. Mieux vaut être peu avec Dieu que beaucoup, mais éloigné de Dieu. Dieu a mieux en réserve pour ses enfants. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a prêché le cœur de son message, qui était le don de sa vie et qu'il fallait manger sa chair et boire son sang, beaucoup de disciples l'ont abandonné. Ils ne comprenaient pas le sens spirituel des paroles du Seigneur. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur ne les a pas retenus. Il les a laissés aller. L'important, c'était de s'attacher comme les 12 disciples au Seigneur. Alors, ils étaient peu nombreux. Ils étaient une poignée, mais ils ont été fidèles jusqu'au bout. Et c'est avec ces 12-là que Dieu a ensuite envoyé ses disciples par tout le pays pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais il s'est servi d'un petit groupe de 12, mais qui étaient convaincus, qui étaient justes, qui étaient attachés au Seigneur plus qu'aux choses du monde. Donc Dieu ne nous demandera jamais de plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. Forcément, si vous voulez être juste, il y a des gens qui n'aimeront pas la justice et la vérité. Donc il y a un combat à mener. Et ce combat, c'est le bon combat de la foi. C'est le combat du chrétien. Le combat du chrétien, c'est pour la justice et la vérité. C'est pourquoi il y a une des armes du chrétien qui s'appelle la ceinture de la vérité. Et une autre, la cuirasse de la justice. La justice, la vérité, c'est vraiment le combat du chrétien. Il y a un combat et dans ce combat, le diable, il voudrait vous faire plier dans le mauvais sens pour tomber dans le compromis. C'est arrivé d'ailleurs à des chrétiens et même l'apôtre Pierre qui pourtant était regardé comme une colonne, un des piliers de l'Église. C'était un apôtre qui avait non seulement connu le Seigneur mais qui était à la tête de l'Église de Jérusalem. Et à un moment donné, il était venu à l'église d'Antioche, donc il se visitait, les apôtres visitaient les églises, il va visiter l'église d'Antioche, lui, il est de l'église de Jérusalem à la base. Et dans l'église d'Antioche, il y avait une évolution par rapport à l'église de Jérusalem, parce que dans l'église de Jérusalem, elle était ce qu'on appelle judaïsante, c'est-à-dire on privilégiait les juifs, les chrétiens d'origine juive, la majorité d'ailleurs des premiers chrétiens étaient d'origine juive. Donc l'église de Jérusalem était très judaïsante et mettait vraiment tout en place pour les chrétiens d'origine juive. Mais l'église qu'il va visiter à Antioche était très différente puisque dans cette église, il y avait beaucoup de chrétiens d'origine non juive. On les appelle des chrétiens, des païens, on les appelle des païens d'origine, ceux qui n'étaient pas juifs. Parce que pour les juifs, tous ceux qui ne sont pas juifs sont des païens. Et donc, quand il va à l'église d'Antioche, il se met à manger avec les païens, donc les chrétiens d'origine païenne. Ce qui, pour les chrétiens d'origine juive, était comme une déviation. Un chrétien d'origine juive ne devait pas manger à table avec des chrétiens d'origine païenne. C'était la pensée à l'époque. Mais alors qu'il faisait ça tranquillement et qu'il n'y voyait pas d'ombrage, lorsque des chrétiens sont venus de Jérusalem pour rendre visite, il est sorti de table pour montrer qu'il n'avait pas de communion avec ces chrétiens-là. Donc en fait, il a esquivé, il a mené un double jeu et c'était un peu hypocrite, un peu hypocrite. Et dans son hypocrisie, il a même entraîné un autre serviteur de Dieu qui s'appelait Barnabas. Et c'est pourquoi Paul écrit dans Galates 2,14, puisque Paul, lui, bien que d'origine juive, il avait compris que maintenant qu'on est enfant de Dieu, il n'y a plus de distinction entre les chrétiens d'origine juive ou les chrétiens d'origine païenne. Tout ça, c'est le peuple de Dieu. Maintenant, on est frères et sœurs dans la foi. Et donc, il écrit ceci dans Galates 2,14, « Voyant qu'il ne marchait pas droit, » il parle de Pierre ici, Pierre et Barnabas, au pluriel, il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, Céphas c'est l'autre nom de Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, alors on peut comprendre, toi qui es chrétien d'origine juive, tu vis à la manière des païens, c'est-à-dire à la manière des chrétiens d'origine païenne, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Donc, Paul, lui, il ose reprendre l'apôtre Pierre parce que Pierre n'était plus dans la vérité. Ce n'est pas facile de reprendre quelqu'un comme l'apôtre Pierre, mais Pierre a accepté la réprimande parce qu'il était, elle était juste. Et comme Pierre aimait le Seigneur, il a accepté que cette attitude n'était pas correcte. Et maintenant, la vérité de l'Évangile, eh bien, c'est d'admettre que juifs et païens forment un seul corps. Du moment qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus, ils forment un seul corps et il n'y a plus de distinction. Paul dit ailleurs, il n'y a plus ni juste, mais si vous êtes juste, un peu comme l'apôtre Paul était juste, eh bien, parfois, il faudra maintenir la vérité face à des personnes qui dévient. Et puis, il était pieux, le texte dit. Il était pieux, qu'est-ce que ça veut dire? Il était pieux, ça veut dire qu'il aimait la parole de Dieu et il aimait la prière. C'est ça la piété. La piété, c'est l'exercice de la foi. Dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu. Et si vous êtes pieux, si vous aimez Dieu, bien certains vous regarderont bizarrement. Parce que vous priez, parce que vous lisez la Bible. Et ça les met en porte-à-faux, peut-être parce qu'eux ont négligé ces choses. Peut-être qu'ils vous inviteront dans des activités loin de Dieu, des sorties mondaines, des festivités qui n'ont plus rien à voir avec les choses spirituelles, plutôt que de consacrer votre temps aux pieds du Seigneur. Donc il y a un choix à faire. Bien sûr, il faut un équilibre. On peut aussi avoir des activités, mais on sait très bien qu'il y a des sorties ou des activités qui peuvent être nocives pour notre âme. Donc on a des choix à faire. Et 1 Timothée 4:8, Paul le définit bien à Timothée, exerce-toi à la piété, ça doit être pour nous quelque chose maintenant d'acquis, quand on est enfant de Dieu, bien c'est un exercice spirituel. L'exercice corporel est utile à peu de choses, c'est vrai qu'il en faut, il faut s'occuper du corps, de la santé, il faut faire de l'exercice, du sport, d'accord, mais la piété est utile à tout, la piété, elle est supérieure, elle ne doit pas être négligée. On ne doit pas privilégier l'exercice corporel et négliger de l'autre côté la piété. Il faut vraiment garder cet équilibre. Elle est la promesse de la vie présente et de celle à venir. Donc, exerce-toi la piété, ça nous parle d'un exercice quotidien, un petit peu comme ceux qui s'entraînent, par exemple, pour les Jeux Olympiques, alors ils vont s'entraîner tous les jours pour une médaille périssable. Ils le font, eux. Ils le font pour des choses de la terre. Et nous, chrétiens, on ne le ferait pas pour les choses célestes. Pourquoi Paul prend souvent l'exemple de l'athlète qui s'entraîne? Il dit, vous, peuple de Dieu, chrétien, vous êtes comme des athlètes, vous devez vous entraîner, courir dans le stade. Eux, ils courent pour une médaille, mais nous, on court pour un but, c'est la vocation céleste. Donc beaucoup de chrétiens qui restent au niveau superficiel, qui n'ont pas la piété, ils n'ont pas la justice, ils n'ont pas la piété, ils vont être affaiblis spirituellement, peu de lecture de la parole, peu de racines, quand viennent les difficultés, ils s'effondrent et ils ne tiennent pas debout. Alors Siméon, il avait ses caractéristiques, un homme juste, il maintenait la vérité malgré les déviations, un homme de piété, il aimait la prière et la parole, et puis un homme qui avait mis sa confiance en Dieu, son espérance en Dieu, parce qu'il attendait la consolation d'Israël. Ça veut dire qu'il attendait le Messie. Peut-être que d'autres n'y croyaient plus, parce que ça faisait tellement longtemps qu'on annonce la venue du Messie. Lui, il s'accrochait aux promesses de Dieu. Ça, c'est une caractéristique aussi des vrais enfants de Dieu, c'est qu'ils croient davantage les paroles de Dieu que ce que le monde ou que ce que les autres vont dire. Siméon avait les promesses de la parole de Dieu dans son cœur. La Bible, dans tout l'Ancien Testament, ça annonce la venue du Messie. Il attendait la venue du Messie. Et nous, aujourd'hui, nous attendons aussi le retour du Seigneur Jésus. De la même manière, il y a des promesses et nous pouvons nous y attendre tous les jours et nous attendre à cette grâce-là qu'il revienne pour nous enlever avec lui dans sa gloire. Siméon était ferme. Si des amis à lui disaient « c'est plus la peine, ça ne sert plus à rien d'attendre, il n'est pas venu, on ne sait pas s'il viendra », non, il attendait la consolation d'Israël. Regardez ce texte de Romains 4, 18, ça c'est Abraham qui nous montre ce type de foi que nous devons développer. espérant, contre toute espérance, puisque lui, il avait reçu une belle promesse d'une descendance, mais il n'y avait toujours pas d'enfant, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité ». Une promesse, avancer avec la promesse et croire dans la promesse, ça c'est la part du croyant. Il faut être patient, il faut être endurant et ne pas baisser les bras. Parfois, vous serez même seul à croire, parce que tous dans votre famille vont abandonner, ils ne vont pas croire que c'est possible, mais il faudra continuer à croire. Et votre foi ne doit pas s'appuyer sur la foi des autres, elle doit s'appuyer sur les révélations de la parole de Dieu, les révélations du Saint-Esprit, les paroles que Dieu donne. C'est sur cette parole-là que nous devons fonder notre foi. Sinon, si elle est fondée sur la foi de quelqu'un d'autre, si cette autre personne chancelle, ben votre foi va chanceler vu qu'elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Donc ça, c'était le premier point. Nous voyons chez Siméon un choix de vie clair. Il était juste, il était pieux, il avait l'espérance dans la venue du Messie. Le deuxième élément, maintenant, c'est sa relation avec le Saint-Esprit. Et ça, ça nous parle à nous aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on doit développer. La première chose qu'on voit par rapport au Saint-Esprit, c'est qu'il était rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il avait développé une communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une force ou une puissance invisible, c'est une personne. C'est lui qui vous donnera la vitalité, c'est lui qui va vous inspirer des paroles, c'est lui qui va vous conduire, qui va vous parler, qui va mettre la paix dans votre cœur. Et la plénitude du Saint-Esprit, elle n'arrive pas par hasard. C'est parce que cet homme avait soif de Dieu, parce qu'il passait du temps à chercher Dieu, parce qu'il passait du temps dans la présence de Dieu et il était rempli du Saint-Esprit. Donc on doit y aspirer, on doit le rechercher, on doit avoir soif. Et plus nous avons soif, plus Dieu va donner. C'est comme si du côté de Dieu, c'est illimité, la provision, elle est là. Mais est-ce que nous avons soif? Un peu comme lorsqu'Élie va dire à cette femme veuve qui n'a plus d'argent et que ses fils vont être vendus comme esclaves pour payer les dettes qu'elle a, il lui dit, va chercher des vases autant que tu peux, autant que tu peux. Et l'huile qui était chez elle, le petit vase d'huile, s'est multiplié jusqu'au dernier vase. Mais si elle avait eu encore plus de vases, si elle avait davantage, il y aurait eu davantage encore. La provision de l'huile, en fait, était indéterminée. Il y en avait. Elle était limitée par la quantité des vases. Pour ça, il faut toujours apporter à Dieu un vase, un nouveau vase, pour qu'il soit à nouveau rempli. C'est pourquoi Éphésiens 5, 18 dit ceci, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Mais cette traduction est très bien rendue dans la parole vivante, qui traduit comme ça, « Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. » C'est le sens du verbe en grec. « Laissez-vous », c'est un présent, on appelle ça un présent continu. Un présent continu, non pas un présent pour un temps, mais un présent qui se perpétue. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Donc, il est rempli du Saint-Esprit. Autre élément par rapport au Saint-Esprit, ben, il est à l'écoute du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, il est appelé notre conseiller. C'est le conseiller. C'est celui qui va nous orienter dans la bonne direction. Dans la bonne voie, imaginez que devant vous, il y a deux routes. Laquelle prendre? Vous n'allez pas tirer à pile ou face. Allez, pile, je vais à gauche et face, je vais à droite. Ça, c'est le monde. Quand on ne sait pas quoi choisir, eh bien, on fait pile ou face. Ou alors, on croit dans le hasard. Mais si vous avez une relation avec le Saint-Esprit, vous priez et vous dites, Seigneur, conduis-moi sur la meilleure voie, la bonne voie parmi les deux. Et le Seigneur conduira votre cœur, il inclinera vos pensées, vos décisions. Et pour peu que vous preniez la mauvaise, parce que vous n'avez pas bien entendu, si vous engagez sur la mauvaise, il y aura comme si vous êtes perturbé, que vous sentez que ce n'est pas la bonne voie. Vous pouvez faire demi-tour et revenir sur la bonne. Saint-Esprit, c'est un bon conseiller. Il est dans ce murmure doux et léger. L'image du Saint-Esprit, c'est une colombe. Quand Jésus est revêtu du Saint-Esprit, il y a une colombe qui descend du ciel. C'est à nous maintenant d'écouter sa voix. Alors certains peut-être disent, oui, mais moi je n'entends pas le Saint-Esprit me parler. Ou je n'ai jamais entendu le Saint-Esprit. Ou le Saint-Esprit ne me parle pas. Ce n'est pas qu'il ne parle pas, c'est que souvent notre oreille n'est pas attentive, ou alors qu'il y a d'autres voix qui dominent. La voix du doute, la voix du séducteur, la voix du découragement, la voix des plaisirs de ce monde. Toutes ces voix, il faut les mettre un peu de côté et concentrer notre attention sur le Seigneur et sa parole et sa révélation. Si on est sur le bon canal, l'Esprit donc parle à notre esprit. Siméon, c'est ce qu'il vivait. Il avait reçu du Saint-Esprit, c'est comme ça que c'est dit. Il avait reçu du Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. C'est une révélation, c'est quelque chose qu'il a reçu de Dieu. Et Dieu l'avait placé dans son cœur. Alors d'autres peut-être auraient dit, ouais, c'est orgueilleux de dire ça, c'est une pensée humaine. Mais non, c'était une promesse de Dieu. Ça échappe un petit peu aux autres, mais c'est entre lui et Dieu. Il avait reçu dans son cœur. Alors ce n'est pas qu'il va falloir s'en vanter, qu'il va falloir le crier sur les toits, non, non. C'est entre lui et Dieu. Et un autre élément, toujours par rapport au Saint-Esprit, un troisième élément, c'est il est poussé par le Saint-Esprit à aller au temple. Poussé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il avait prévu de faire ce jour-là. Il avait peut-être d'autres activités prévues, travaux à la maison, nettoyer son jardin, je ne sais pas quelle activité, remplir des papiers, bref. Mille et une activités, et tout d'un coup, il se sent poussé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il a développé une telle relation avec le Saint-Esprit que le Saint-Esprit peut l'incliner à faire quelque chose qu'il n'a pas prévu. Et de ce fait, il va se retrouver au bon endroit et au bon moment que Dieu veut. Mais que se serait-il passé s'il n'avait pas cédé à l'inclinaison du Saint-Esprit, s'il avait résisté? S'il avait dit « Oh, c'est mon imagination, je continue mes travaux. » Non, il a obéi. Certainement, il aurait manqué le rendez-vous divin s'il n'avait pas prêté oreille à ce sentiment. Il faut que tu ailles au temple maintenant. Il faut que tu ailles au temple maintenant. Mais Seigneur, il pouvait dire « Seigneur, mais ce n'est pas l'heure de la réunion, il n'y a rien au temple. Pourquoi je vais aller au temple ?» Dieu le sait. Il devait simplement obéir. Il ne le savait pas, lui, mais Joseph et Marie, en fait, étaient en train d'arriver dans le temple pour présenter Jésus au Seigneur, qui était un petit enfant. Et donc, on le présentait au bout d'un certain nombre de jours. Il était présenté dans le temple donc pour le consacrer à Dieu. Et c'est tout simplement ce que prescrit la loi. Donc, Joseph et Marie font... c'était des Juifs, ils présentent à Dieu Jésus enfant. Siméon, donc, ignore même que le Messie est né. Il ne sait même pas que cet enfant, c'est le Messie encore. Mais le Saint-Esprit, vous voyez, le pousse. Et moi, je crois que le Saint-Esprit peut nous pousser aussi, à des moments donnés, à faire des choses qu'on n'a pas prévues, à se retrouver à un endroit qu'on n'a pas pensé, mais sous une impulsion, une direction du Saint-Esprit. Lui, il ne le sait pas, il ne sait pas pourquoi, mais c'est là qu'il faut qu'il soit, à ce moment-là, il faut qu'il soit là-bas. Et il va le comprendre au moment où il arrive dans le temple et qu'il voit Joseph et Marie qui vont présenter ce petit enfant. Et là, la connexion se fait dans son esprit. C'est Marie et Joseph, ils vont présenter maintenant Jésus. Il va le prendre dans ses bras. Et là, il reçoit vraiment de Dieu que c'est ce petit enfant, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie. Et il l'entend pas de Marie et Joseph, parce que Marie et Joseph encore sont sous le choc de toute cette naissance miraculeuse. Les sacrificateurs n'y connaissent rien, donc c'est Dieu qui l'avertit lui-même. Vous voyez, la relation avec le Saint-Esprit, c'est déterminant. Et puis enfin, une troisième partie, c'est on voit les paroles inspirées. Comme il est conduit par Dieu, eh bien il va donner des paroles de la part de Dieu. Siméon ne parle pas de lui-même. mais sous l'impulsion de l'Esprit, il va donner une prophétie, c'est-à-dire une parole de la part de Dieu. Et ça, ça vient quand on développe eh bien, une communion intense avec le Seigneur. Il y a parfois des croyants qui méprisent les paroles de Dieu. Je pense à Ésaü. Ésaü, c'était un croyant, mais qui, la Bible dit qu'il méprisait le droit d'aînesse. Pourtant, le droit d'aînesse était important aux yeux de Dieu. Et quand on méprise les saintes choses de Dieu, bien, on fait des mauvais choix. Tandis que dans Éphésiens 4, 29, il y a des conseils pour les chrétiens. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ça, parler sous l'inspiration de l'Esprit. Communiquer une grâce, une parole inspirée, un encouragement, une parole qui va édifier. Bien, là, vous parlez inspiré par le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Si vous l'attristez, vous n'aurez pas ces paroles de grâce, vous n'aurez pas ces paroles inspirées. Mais que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. C'est ça qui attriste le Saint-Esprit, ce sont ces calomnies, ce sont ces colères, c'est cette violence, dans cette agressivité qui arrive parfois. Donc, Siméon en conclut que maintenant il peut partir en paix quand il dit « Maintenant Seigneur » au verset 29, « Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix », ça veut dire que maintenant qu'il a vu le Messie, il est prêt à partir dans l'éternité à la rencontre de son Dieu. Il a vu le salut. Jésus va apporter, alors sa prophétie c'est que Jésus va apporter le pardon des péchés. Il dit que Jésus c'est maintenant la lumière des nations. Et Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Il dit que Jésus c'est la gloire d'Israël. Le peuple pour qui Jésus est venu en priorité, c'est les brebis perdues de la maison d'Israël, mais qui l'ont rejeté. Ésaïe 46, 13, c'est cet honneur qu'avait Israël de donner le Messie au monde. « Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. » Donc c'était bien prévu que le Messie allait naître dans le peuple d'Israël. Et il prophétise les choses que personne ne peut savoir, que Jésus amènera la chute et le relèvement de beaucoup. C'est-à-dire, pour ceux qui ne croient pas, Jésus va devenir un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Ça, c'est pour les incrédules. Mais pour ceux qui croient, eh bien, ils vont avoir le privilège de trouver Jésus comme un roc sur lequel ils vont pouvoir bâtir leur vie. Donc, ça va être à la fois la chute, mais aussi le relèvement, pour ceux qui croient. Et puis, un signe qui provoque la contradiction, parce que sa présence mettra en lumière le péché, il faudra faire un choix clair, soit suivre Jésus, soit le rejeter. Et en même temps, il annonce la croix, parce qu'il dit à Marie, « Une épée te transpercera le cœur », et c'est ce qui est arrivé quand Jésus est mort sur la croix, c'est-à-dire que Marie a eu le cœur transpercé de voir son fils, qui était le Fils de Dieu, mourir sur la croix. La croix est une mort injuste, elle était dans le plan de Dieu néanmoins pour que son sang précieux soit versé et que nous ayons le pardon de nos péchés. Et puis les pensées de beaucoup seront dévoilées, cette allusion au sacrifice de Jésus qui permet maintenant le choix de chacun, accepter ou rejeter la grâce de Dieu. Dieu voit dans les pensées, Dieu sait, Dieu connaît les cœurs, Dieu sait qui lui appartient, il dévoile les pensées. 1 Corinthiens 1, 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Cette puissance et sagesse de Dieu, c'est par la foi que nous la trouvons dans le sacrifice de Jésus. En conclusion, on voit que Siméon s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Ce n'était pas hasard. Il a eu une impulsion. Il a eu le sentiment que ce jour-là, il fallait qu'il aille au temple de Jérusalem qui laisse là ses activités. Il y a eu comme un ordre divin dans son cœur qui a retenti. Et si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, bien vous serez au bon endroit, vous serez à l'endroit que Dieu veut et vous ferez les bonnes rencontres. Comme Siméon, vous pourrez accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Mais ça, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas une décision qu'on peut prendre comme cela, à la légère. Ça nécessite de la piété, ça nécessite de la justice, ça nécessite de nous attendre à la réalisation des promesses de Dieu, ça nécessite d'être à l'écoute de ce que Dieu veut pour nous. On ne peut pas se laisser conduire et puis être négligé par ailleurs. Ce n'est pas possible à un moment donné. Ça va attrister le Saint-Esprit, donc il faut vraiment mettre une priorité sur la recherche de la face de Dieu. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta présence, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta parole qui nous montre au travers de cet homme, Siméon, un homme attaché à toi, un homme qui aime passer du temps dans la prière et dans l'écoute du Saint-Esprit. Et nous te prions que nous-mêmes, dans l'Église ici, nous puissions laisser le Saint-Esprit nous conduire là où toi tu veux, pour les plans et les projets que tu as pour chacun de nous, afin d'être sensible à ta voix, Seigneur. Oui, nous désirons te laisser encore davantage de place dans nos vies. Nous te prions de régner au milieu de nous,